Bonjour et bienvenue à l'émission 15 du balado de la Revue de droit d'Ottawa. Je m'appelle Avery Wynne, rédactrice associée de la Revue. Aujourd'hui, nous allons discuter du cas « Le très honorable premier ministre du Canada et autres » contre la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et le procureur général du Nouveau-Brunswick. En 2019, la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Rovineau, est décédée. La gouverneure générale, suivie d'une recommandation du comité du conseil privé, a nommé Brenda Murphy au titre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Brenda Murphy est unilingue et anglophone. La nomination d'une lieutenante-gouverneure unilingue et anglophone représente, pour la communauté francophone du Nouveau-Brunswick, une atteinte à la protection et la préservation de la langue française. Les conflits présents dans la conservation de la langue française au Nouveau-Brunswick est un sujet très important dans l'histoire de la province. La première génération de francophones nés au territoire connu maintenant comme le Canada, suite à l'arrivée des colons français en 1604, sont les Acadiens. L'Acadie comporte les provinces maritimes du Canada. En 1713, lors de la signature du traité d'Utrecht, une partie de l'Acadie est passée à la Grande-Bretagne. Dans un effort d'angliciser la région, la couronne britannique a demandé aux Acadiens de prêter allégeance au roi de la Grande-Bretagne et a forcé l'emploi de l'anglais dans les communautés francophones. Après leur refus, la Grande-Bretagne a commencé le Grand Dérangement, dont le déplacement forcé des milliers d'Acadiens de la région, dont environ 2000 sont morts. Les tensions entre les communautés acadiennes francophones et les communautés anglophones demeurent dans la province aujourd'hui. Cependant, il existe des motivations politiques et culturelles de protéger et promouvoir la langue française et assurer son statut égal à celui de l'anglais. En 1969, le législateur a adopté la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick qui donne aux deux langues statut égal dans la province. Il a ensuite adopté, en 1981, la Loi reconnaissant l'égalité des deux langues les deux communautés linguistiques officielles qui est constitutionnalisée en 1993. C'est dans ce contexte que la Société acadienne du Nouveau-Brunswick, le SANB, dépose une requête attaquant le caractère unilingue de Brenda Murphy, constatant que ceci porte atteinte aux garanties constitutionnelles en matière de langues officielles, notamment aux garanties prévues par les articles 16, paragraphe 2, l'article 18, paragraphe 2 et l'article 20, paragraphe 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. La SANB cherche auprès de la Cour une déclaration annulant la recommandation de Brenda Murphy au poste de lieutenant-gouverneur et une déclaration que le décret est illégal et inopérant. La SANB a eu gain de cause en première instance, mais la décision a été infirmée par la Cour d'appel au Nouveau-Brunswick en mai 2024. Brenda Murphy reste dans le rôle de lieutenant-gouverneur jusqu'à la fin des élections provinciales en octobre 2024. Suite à l'élection de Suzanne Holt, la nouvelle première ministre du Nouveau-Brunswick, Louise Imbeault, acadienne et ancienne journaliste, est nommée au rôle. En appel, la Cour analyse les arguments du Canada et du SANB en fonction des articles 20, paragraphe 2, 18, paragraphe 2, 16, paragraphe 2 et l'article 16.1 de la Charte, ainsi que l'article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'article 58 de la LC octroie au gouverneur général le pouvoir de nommer les lieutenants-gouverneurs des provinces. Selon la SANB, la Charte impose une restriction sur ce pouvoir qui exige que le lieutenant-gouverneur soit bilingue. La Cour confirme que si la Charte impose cette restriction, que cette exigence ne peut être écartée par 58 seul. En ce qui concerne les violations de la Charte, la SANB constate que, comme la majorité des tâches du lieutenant-gouverneur sont accomplies par le lieutenant-gouverneur et non ses représentants, il est impossible de séparer l'institution du lieutenant-gouverneur de la personne qui occupe le poste. Le public du Nouveau-Brunswick a alors droit de communiquer avec la personne qui occupe le poste du lieutenant-gouverneur dans les deux langues officielles. La SANB constate que, comme les lois au Nouveau-Brunswick doivent recevoir l'ascension royale dans les deux langues officielles, le fait que le lieutenant-gouverneur est incapable de comprendre les deux versions, la validité de la sanction royale de la version française serait diminuée. La Cour rejette l'analyse de la SANB, notamment en disant que le public a droit de communiquer avec le bureau des institutions de la législature ou du gouvernement, non de l'institution. La Charte exige l'égalité d'usage des deux langues à l'intérieur des institutions, non nécessairement un usage équivalent. La Cour conclut qu'il n'y a aucun objet d'introduire la dualité linguistique au sein de l'appareil gouvernemental, ni le bilinguisme des personnes spécifiques. Elle détermine aussi que l'incapacité de comprendre les textes législatifs dans les deux langues ne compromet pas l'intégrité de la sanction royale du lieutenant-gouverneur. La SANB a reçu l'approbation de porter ce cas à la Cour suprême du Canada. Gabriel Poliquin, représentant du SANB, a pris le temps de parler avec nous au sujet du cas. Gabriel Poliquin a reçu son bac en linguistique de l'Université de McGill en 2001, suivi par un doctorat en linguistique de Harvard University en 2006 et a reçu finalement son LLB de l'Université d'Ottawa en 2010. Maître Poliquin est un ancien auxiliaire juridique de l'honorable Justice Lebel de la Cour suprême du Canada. En 2022, il a été conseillé aux commissions sur l'état d'urgence qui avait comme tâche d'investiguer la déclaration de l'urgence d'ordre national en février 2022. Il est également auteur de plusieurs publications, notamment « L'art de juger de l'honorable Louis Lebel » dans la revue de droit d'Ottawa pour le volume 51.2 et « La protection d'une vitalité fragile, les droits linguistiques autochtones en vertu de l'article 35 » chez le McGill Law Review, volume 58.3. La pratique de maître Poliquin se concentre dans le litige civil et commercial et se spécialise en droit administratif et droit linguistique constitutionnel. Il a aussi déjà enseigné le cours de droit international privé à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa.
Alors, bonjour, M. Poliquin, merci d'être ici. J'ai vraiment hâte de te poser quelques questions aujourd'hui au sujet du bilinguisme et du lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick.
Parfait, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
Alors, on va commencer. Alors, quelle est l'importance de cette décision pour le bilinguisme au Nouveau-Brunswick et au Canada?
Oui, donc il faut savoir que dans chaque province, la lieutenant-gouverneur représente la couronne. Elle représente l'État. Donc, elle doit aussi accomplir des fonctions constitutionnelles puis traditionnelles qui ont pour objet de rassembler la population autour d'un symbole de l'État. Donc, un symbole qui est apolitique. Ça, c'est très important. Ce symbole-là est la fonction, vraiment, de lieutenant-gouverneur. C'est sa fonction d'être ce symbole-là pendant la période où elle occupe la charge. Donc, la personne qui occupe le poste de lieutenant-gouverneur est la seule personne qui est constitutionnellement habilité à remplir ses fonctions. Puis ces fonctions-là incluent, par exemple, donner la sanction royale, aussi faire fonctionner l'institution de lieutenant-gouverneur. Aussi, le lieutenant-gouverneur est vraiment à la tête du gouvernement. Donc, le lieutenant-gouverneur a deux fonctions, essentiellement. Une fonction au niveau de la législature, où elle donne la sanction royale, elle prononce le discours du trône, mais aussi à la tête du gouvernement. Donc, tout le pouvoir de l'État émane de la lieutenant-gouverneur, du moins sur le plan provincial. Donc, le Nouveau-Brunswick, lui, est la seule province qui est officiellement bilingue. Comme on sait, elle est constitutionnellement bilingue. Et donc, c'était la volonté du constituant de faire du Nouveau-Brunswick un État bilingue. Bon, alors, de deux choses l'une. Si la lieutenant-gouverneur représente l'État, que cet État-là est bilingue, puis qu'il y a une seule personne qui peut remplir les fonctions constitutionnelles, de l'État néo-brunswickois, ben, cette personne doit être bilingue. Essentiellement, c'est ça l'argument de la SANB dans cette affaire-là. Alors, pourquoi c'est important? Ben, c'est que si la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick n'est pas bilingue, alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une égalité de statut, puis d'usage du français, puis de l'anglais dans les institutions de la législature, puis du gouvernement du Nouveau-Brunswick? Puis je me réfère spécifiquement ici au paragraphe 16.2 de la Charte. Comment est-ce qu'on peut dire que la communauté linguistique française a un statut égal, des droits, des privilèges égaux à ceux de la communauté linguistique anglaise quand la communauté linguistique française du Nouveau-Brunswick ne se sent pas représentée par cette personne-là? Là, je me réfère ici à l'article 16.1 en particulier. C'est ça l'enjeu qui est central. Donc, la cause est importante pour le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, puis au Canada aussi, parce que la SANB tient au principe de respect pour et de promotion et de protection des minorités, de respect pour et de protection des minorités. C'est ça le principe constitutionnel non écrit selon lequel il faut interpréter les dispositions pertinentes de la Charte. Donc, en nommant un lieutenant-gouverneur unilingue, le gouvernement fédéral a essentiellement manqué de respect pour la communauté acadienne et francophone, puis aussi a compromis sa protection parce que si une minorité ne se sent pas représentée dans les institutions étatiques, ses membres sont plus à risque de s'assimiler. Alors, c'est un enjeu très important pour le Nouveau-Brunswick, vu son caractère bilingue, mais c'est un enjeu qui existe aussi pour toutes les minorités francophones au Canada.
Excellent, merci. Et la Cour a souligné la distinction entre le bilinguisme institutionnel et le bilinguisme individuel. Pouvez-vous expliquer cette distinction?
Oui, certainement. Donc, la charte, puis la loi sur les langues officielles fédérales, la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick aussi, crée des obligations pour les institutions. Non, et seulement des obligations pour les institutions. Donc, les institutions doivent être bilingues. Elles doivent fonctionner, doivent offrir des services bilingues. Elles doivent fonctionner aussi de façon bilingue à l'interne. Ceci dit, les personnes n'ont pas à être bilingues si elles ne le désirent pas, ou si bon, les accidents de leur biographie ont fait en sorte qu'ils n'ont pas pu devenir bilingues. Parce que l'objectif du bilinguisme canadien, ironiquement, si on veut, c'est de permettre à chacun de demeurer unilingue s'il le veut, hein, puis d'être capable d'interagir avec les institutions ou au sein des institutions du gouvernement dans la langue officielle de leur choix, puis aussi de le faire de façon égale, hein. C'est ça le bilinguisme institutionnel. Donc, mais évidemment, il y a un peu un paradoxe, là, mais évidemment, pour que les institutions fonctionnent de façon bilingue, pour atteindre cet idéal-là dans la réalité, ben, il faut que certaines personnes soient elles-mêmes bilingues. Hein? Donc, par exemple, si une personne est chargée d'offrir des services au sein du gouvernement dans les deux langues officielles, ben, il faut que cette personne-là soit bilingue. Ça fait partie de sa job, essentiellement. Donc, le bilinguisme institutionnel, dans certains cas, appelle un bilinguisme personnel. Donc, la SNB, comme on a fait valoir en cour d'appel, puis qu'on va faire valoir évidemment en cour suprême aussi, c'est qu'elle ne remet pas en question le principe du bilinguisme institutionnel, comme quoi tout un chacun peut demeurer unilingue s'il le veut. Puis son argument, c'est que l'institution de la lieutenant-gouverneur est assez particulière parce qu'il y a une seule personne qui compose l'institution. Presque en entier, du moins quand on parle des fonctions constitutionnelles dans le gouverneur. Donc, au Nouveau-Brunswick, du moins, cette personne-là doit être bilingue pour respecter en particulier le paragraphe 16.2, mais aussi les autres paragraphes qui définissent le bilinguisme étatique au Nouveau-Brunswick. Donc, il en résulte que nécessairement, bien, cette personne-là doit être bilingue. Donc, ça ne compromet pas le bilinguisme institutionnel, mais c'est dans le cas particulier, la lieutenant-gouverneure, bien, elle doit être bilingue pour assurer justement le bilinguisme institutionnel de la charge de lieutenant-gouverneur.
Excellent, merci. Et si vous gagnez le cas à la Cour suprême, que pensez-vous sera l'effet de cette décision? Est-ce que tu penses que c'est possible que ça va créer une obligation de bilinguisme pour d'autres hauts fonctionnaires comme le gouverneur général?
C'est sûr que ça peut avoir des ramifications pour d'autres postes. Je ne m'aventurerai pas pour ce qui est d'autres hauts fonctionnaires, là. Les arguments peuvent être compliqués, puis c'est vraiment une question de cas par cas. Évidemment, il y a un poste analogue à celui de lieutenant-gouverneur, puis c'est celui de gouverneur général. Donc, c'est sûr que la SNB base son argument en partie sur les paragraphes 16.2, 18.2, puis 22 de la charte. Puis le lieutenant-gouverneur a un rôle constitutionnel à jouer pour mettre en œuvre ces paragraphes-là, mise en œuvre qui nécessite son bilinguisme. C'est ça l'argument essentiellement. Bon, aussi, évidemment, c'est que ces paragraphes-là ont leur équivalent en 16.1, 18.1, puis 20.1 pour ce qui est du palier fédéral. Ce sont des dispositions de la charte avec 17.1 qui font du Canada un État bilingue lui aussi. Donc, l'argument de la SNB se base premièrement sur la volonté du constituant de faire du Nouveau-Brunswick un État bilingue. Puis on se dit, ben, le Canada aussi est un État bilingue. Donc, est-ce qu'il en découle que la gouverneure générale doit être bilingue? Ben, la réponse est, premièrement, c'est pas devant la Cour suprême, mais la réponse est peut-être, mais pas nécessairement. Donc, l'argument de la SNB se fonde aussi sur l'article 16.1, qui lui est particulier au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas d'équivalent fédéral à 16.1. L'article 16.1, lui, il consacre l'idée que les deux communautés de langue officielle au Nouveau-Brunswick ont un statut égal, puis que l'État doit jouer un rôle dans la promotion de ce statut-là, des droits et privilèges. Ce n'est pas le cas au niveau fédéral. Il n'y a pas cette idée-là nécessairement de représentation. De nécessairement faire le pont entre les deux communautés bilingues, les deux communautés de langue officielle, pardon. Donc, oui, le Canada est un pays bilingue, mais l'idée du Canada peut aussi avoir d'autres dimensions qui, potentiellement, sont tout aussi importantes. Donc, on ne peut pas nécessairement incarner toutes ces dimensions-là dans une seule et même personne au niveau fédéral. Mais l'argument de la SANB, c'est qu'il y a suffisamment de personnes au Nouveau-Brunswick qui peuvent incarner cette réalité-là qui est le bilinguisme du Nouveau-Brunswick.
OK, merci. Et ensuite, finalement, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en droit intéressés par la litige en matière de droit constitutionnel et linguistique?
Parce que le meilleur conseil que je pourrais donner, parce que les dossiers de droit constitutionnel, de droit linguistique, il en pleut pas. Hein. C'est vraiment une spécialité, en particulier les droits linguistiques. Mais c'est le cas aussi pour les droits constitutionnels. C'est rare les praticiens qui font du droit constitutionnel exclusivement, du moins en pratique privée. Hein. C'est pas le cas en pratique publique. Donc, si on est avocat du gouvernement, il y a des gens qui ne font que ça. Alors, si ça vous intéresse de ne faire que ça, je vous encourage à faire carrière au niveau du gouvernement. Ce qui est très intéressant. Tous les dossiers au niveau du gouvernement sont très intéressants. En pratique privée, c'est autre chose. Donc, en pratique privée, je dirais, intéressez-vous au droit constitutionnel, développez cet aspect-là de votre intérêt, mais aussi soyez ouvert à faire d'autres choses. Intéressez-vous aussi à d'autres domaines de droit. Mais peu importe, c'est important de démontrer son intérêt pour des dossiers constitutionnels, dossiers de droit linguistique, puis de cultiver cet intérêt-là, que ce soit par vos lectures ou aussi, et aussi par votre engagement dans votre milieu étudiant, dans votre milieu communautaire. L'intérêt se démontre, entre autres, par des publications en matière de droit public, puis pas nécessairement des publications là, dans des revues, là, sont revues par les pairs ou quelque chose comme ça. Certainement, c'est un objectif à viser parmi d'autres, mais d'autres publications aussi qui sont utiles, puis qui vont démontrer votre intérêt. Donc, lisez la jurisprudence, acquérir des connaissances en matière de droit public, publier des commentaires d'arrêt, par exemple, sur des blogs. Toutes ces activités-là enrichissent vos connaissances en matière de droit public, mais elle développe aussi votre expertise, puis surtout, elle signale à votre milieu que vous vous intéressez à ces questions-là. Donc, peu à peu, ben, les membres de votre communauté, des gens qui vous entourent, vont venir vous trouver pour vous engager dans des causes de droit constitutionnel, de droit linguistique. C'est comme ça que ça se fait peu à peu. L'affaire, c'est un marathon, hein. C'est pas un sprint. Ça se fait petit à petit, mais ça commence dès les études de droit.
OK, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour vos réponses aujourd'hui et bonne chance à la Cour suprême.
Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Nous apprécions énormément la présence de Gabriel Poliquin pour cette entrevue. Cette décision a un impact important dans la communauté francophone, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais aussi à travers le pays. L'Université d'Ottawa est dotée d'étudiants et d'étudiantes francophones en droit de partout au Canada. Le comité du balado de la revue s'interroge à l'opinion de ses étudiants par rapport à ce cas. Nous avons tenu une discussion à table ronde avec Natalie Comfort, Gabrielle Muzachka et Stéphanie Moreau pour entendre leurs pensées à ce sujet.
Puis merci beaucoup d'être là avec nous pour cette petite table ronde. Je vais vous demander peut-être de commencer par vous introduire à l'audience. Alors peut-être on peut commencer avec Natalie Comfort.
Oui, donc moi c'est Natalie Comfort. Je suis originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Je suis dans ma troisième année du programme de Common Law en français. Puis tout récemment, j'ai participé au concours de plaidoirie de Michel Bassarache portant sur la décision dont nous allons parler aujourd'hui.
Excellent, merci beaucoup d'être là. Puis peut-être à Stéphanie maintenant.
Moi, c'est Stéphanie Moreau. Je viens de la région d'Ottawa, de l'Ontario, et je suis une étudiante de troisième année du programme de Common Law en français.
Formidable, merci beaucoup. Et Gabrielle, finalement.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle Muzachka. J'étais née à Terre-Neuve et j'ai habité là comme franco-terre-neuvienne jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis ensuite, j'ai habité en Saskatchewan. J'ai fréquenté des écoles françaises. Francophone, pardon, et j'ai aussi été compétitrice dans le concours Bastarache du bord des intimés pour la décision dont on va parler aujourd'hui.
Excellent. Merci beaucoup à vous trois d'être là. Je vais commencer avec notre première question. Alors, nous n'exigeons pas que les députés parlementaires soient bilingues. Pourquoi est-ce que les lieutenants-gouverneurs devraient ou ne devraient pas être tenus aux mêmes attentes? Puis peut-être on peut commencer avec Nathalie.
Oui, donc, selon moi, étant du Nouveau-Brunswick, je suis très biaisée sur toutes les questions aujourd'hui. Selon moi, les lieutenants-gouverneurs, surtout celles du Nouveau-Brunswick, devraient être bilingues. Je souligne aussi qu'au Nouveau-Brunswick, la plupart des députés sont bilingues. Donc, moi, dans ma circonscription de Beauséjour, le député Dominique Leblanc est bilingue. Son plein bureau est bilingue aussi. Bien que ce n'est pas une exigence, je pense que c'est important de représenter la communauté que l'on dessert. Donc, au Nouveau-Brunswick, il y a quand même des pochettes linguistiques où l'on parle seulement français ou seulement l'anglais. Puis, bien qu'il y a certaines personnes qui puissent parler le français et l'anglais à l'intérieur de ces pochettes, la ligne gouvernante devrait être capable de représenter ces deux communautés linguistiques-là. Donc, selon moi, les lignes gouvernantes, bien que ce soit en Alberta, parce qu'il y a quand même des communautés francophones en Alberta, ou que ce soit au territoire du Nord-Ouest, partout au Canada, le bilingue, ça serait très bien que les lieutenants-gouverneurs puissent atteindre ces obligations linguistiques-là, puis même pour les députés fédéraux.
Excellent, merci. Puis Stéphanie?
Bien, je fais quoi tout ce que Nathalie a dit, mais je dirais, pour moi, la différence, c'est que, puis je suis d'accord, d'après moi, les députés devrait pouvoir parler les deux langues, mais je reconnais que c'est pas nécessairement une exigence dans le système démocratique. Mais il faut se rappeler que les députés sont élus, tandis que le lieutenant-gouverneur, il est vraiment nommé. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités de s'assurer que la personne qui soit nommée soit une personne bilingue. Surtout, tu sais, on parle de quelqu'un qui est nommé, qui incarne l'État, un État qui est officiellement bilingue. Puis encore plus pour ça, pour le Nouveau-Brunswick, je veux dire, c'est la seule province qui est officiellement bilingue. Puis ça, d'après moi, ça fait en sorte que c'est encore plus important que le lieutenant-gouverneur soit bilingue pour bien représenter l'engagement du Nouveau-Brunswick envers l'égalité linguistique. Fait que le lieutenant-gouverneur devrait pouvoir, au nom de l'État, communiquer avec la population du Nouveau-Brunswick dans les deux langues officielles quand qu'il ou elle fait un discours public, quand il parle des cérémonies ou des communications officielles. Je pense que c'est vraiment important. Puis vraiment, la distinction entre les deux, c'est que les députés sont élus, puis le lieutenant-gouverneur est nommé.
Merci. Puis j'aime vraiment cette distinction entre être élu puis la liberté démocratique de la population de pouvoir choisir quelqu'un pour les représenter un peu importe leur leurs compétences ou qualifications dans certains domaines plus que d'autres. Mais lorsque c'est une situation où on est en train de nommer quelqu'un à une position, des critères plus exigeants peuvent être mis en place pour ça. Alors, on va passer maintenant à Gabrielle.
Alors, en tant qu'intimée au concours, j'ai souvent, comme je me suis dit, lancée dans le côté qui était un peu comme pas ma. Pas qu'est-ce que je pensais au début quand je lisais la décision, vraiment de prendre le côté. Alors, j'apprécie certainement les commentaires de Stéphanie puis Nathalie, puis certainement la distinction que Stéphanie a faite avec l'élection d'un député puis la nomination. Mais ça, d'abord, comme intimé dans la décision en question, on peut voir vraiment que il faut que la Constitution puis les dispositions relatives à la nomination exigent vraiment ceci pour que ça soit vraiment que ça soit un droit qui a été violé, puis l'exercice que fait les juges dans la décision, puis qui sera faite encore à la Cour suprême, c'est vraiment de voir les responsabilités, comment ils diffèrent d'un député puis d'un lieutenant-gouverneur. Comme les responsabilités d'un lieutenant-gouverneur, l'argument que fait le gouvernement, c'est que vraiment la tâche ne requiert pas une exigence de bilinguisme, une capacité de parler les deux langues de façon égale. Alors, c'est difficile parce que je comprends l'argument, je comprends de vouloir un lieutenant-gouverneur francophone, et certainement c'est ma position personnelle aussi, mais c'est difficile de voir comment le juge va devoir traiter la question, puis comment qu'ils vont se trouver dans cette position.
Mesdames, merci beaucoup. On va passer à la deuxième question. Alors, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick constate que les Néo-Brunswickains ont droit de communiquer avec le bureau de l'institution du lieutenant-gouverneur et non l'institution ou la personne elle-même. Croyez-vous que le bilinguisme institutionnel est une garantie assez forte pour la population francophone du Nouveau-Brunswick comparée à une obligation de bilinguisme individuel du lieutenant-gouverneur. Puis peut-être cette fois, on va commencer avec Stéphanie.
Et donc, moi, je dirais juste non, c'est pas suffisant. Le bilinguisme institutionnel, c'est la base nécessaire. Mais ça devient difficile de parler d'égalité réelle quand que la personne qui incarne l'institution peut pas s'exprimer dans les deux langues. Fait que, même je réalise que malgré qu'il y ait peut-être un bilinguisme institutionnel, il manque ça quand on a un gouverneur qui parle uniquement une langue. Puis, dans toutes les situations où c'est que le gouverneur s'adresse à la population comme représentant de l'État dans une seule langue, ça envoie, ben, selon moi, ça envoie un message que le français est moins valorisé au sein de l'État, malgré le fait qu'ils sont censés avoir un statut égal. Puis, pour moi, ça vient miner la confiance de la communauté francophone envers ces institutions-là. Donc, comme j'ai dit, oui, le bilinguisme, c'est important, c'est la base nécessaire, mais l'obligation envers le non-gouverneur continue pour renforcer la légitimité puis la représentation d'autant les communautés anglophones que francophones quand ils exercent leur fonction.
Excellent. Alors peut-être Gabrielle, à vous prochainement.
Oui, merci. Je trouve cette question assez intéressante parce que la disposition n'a pas été comme interprétée de cette façon, comme la question s'est pas posée vraiment jamais par rapport au Nouveau-Brunswick. Certainement, il y avait comme quelques décisions, je pense, une vraiment random, si je pourrais dire, qui a traité de savoir comme si la disposition en entier comme 20 au Canada peut vraiment vouloir dire comme un service direct. Mais c'est la première fois qu'on se pose la question de savoir si comme un service direct, ça veut dire quoi? Ça a l'air de quoi en pratique? Qu'est-ce que c'est comme avec un rôle spécifique? Est-ce que c'est une communication avec eux? Est-ce que c'est de recevoir un discours public de cette personne? Puis je pense que la Cour va avoir une opportunité vraiment importante de déterminer ceci pour comme le futur de cette disposition, parce que la doctrine que la Cour d'appel a citée indique que comme ceci n'a pas été une question d'interprétation auparavant, puis on est vraiment comme un peu dans le noir à savoir comme comment utiliser la disposition d'un bord de l'argument ou de l'autre. Alors, honnêtement, c'est difficile de répondre la question sans vouloir prendre le côté comme intimé parce que c'est qu'est-ce que j'avais vraiment plaidé tellement longtemps pour quelques mois, mais je pense que c'est vraiment une question qui je vais attendre patiemment à l'année prochaine pour savoir comment ils vont traiter cette question.
Armina, puis Nathalie.
Ben, selon moi, restreindre l'interprétation seulement au bureau de l'institution et non à l'institution même, c'est une interprétation stricte et limitative qui va à l'encontre des principes d'interprétation de la charte même. Donc, un peu pour faire écho avec Gabriel, puis un peu en désaccord avec Gabriel dans l'affaire Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick, donc ça c'est dans l'affaire de 2008. Si j'ai pas tort, le juge Sarah dit que l'article 20, paragraphe 2, accorde un bilinguisme institutionnel complet, puis ce droit s'étend à la communication avec l'État. Puis si on regarde au rôle de la lieutenant gouverneur, elle est vraiment la personnification de la branche exécutive et législative du pouvoir de la couronne. Elle occupe un poste unique, c'est elle-même l'État. Donc, étant donné ses fonctions, les services qu'elle offre à la province, on ferait un tort de dire en reconnaissant qu'elle n'est pas une nation même. Donc, selon moi, c'est dans la charte, c'est dans l'interprétation des dispositions de la charte que la langue gouverneure du Nouveau-Brunswick est une institution. Donc, nier ce droit va vraiment à l'encontre de notre charte même.
Je trouve que c'est un argument très, très intéressant de dire que à cause de la nature du travail du lieutenant-gouverneur, que ce n'est pas possible de séparer l'institution et la personne. Puis j'ai très hâte à entendre ce que la Cour suprême a à dire sur cet argument. On va maintenant passer à la troisième question. So, dans le contexte du bilinguisme institutionnel, la Cour distingue aussi entre l'égalité des droits des deux langues et le droit à l'usage équivalent des deux langues au sein des institutions de la législature et du gouvernement. Elle conclut que la charte garantit l'égalité des droits des deux langues. Alors, si les deux langues ont droit égal, pourquoi, selon vous, est-ce important que le lieutenant-gouverneur puisse parler le français? Si, par exemple, tout le monde dans le bureau de l'institution du lieutenant-gouverneur parle le français et c'était que le lieutenant-gouverneur qui ne pourrait pas y parler, est-ce qu'il y aura encore vraiment un effet nuisible pour la communauté francophone de la province? Puis j'aimerais commencer avec Gabrielle.
Oui, alors je pense avec cette question, je serais en accord que c'est certainement difficile de voir un bilinguisme, une utilisation du français dans les services quand vraiment le bureau fonctionne entièrement, essentiellement en anglais parce que toutes les tâches qui se font par la lieutenant-gouverneur sont en anglais, puis toutes les tâches comme les rencontres, puis tout ce qui se passe en groupe doit se faire quand même en anglais. Alors, je trouve que ça serait difficile de donner preuve que vraiment le service à la fin, le service qui se rend au public est en français ou a été fait en français par la lieutenant-gouverneur, ça serait difficile. Mais la question vraiment où ça prend un peu de nuance, c'est vraiment de savoir comme quelle responsabilité, de ma perspective, c'est comme quelle responsabilité provient directement du lieutenant-gouverneur et doit venir d'elle, puis quels services peuvent voir une assistance de le bureau. Puis, est-ce que ce fait qu'il y a comme deux responsabilités, il y a deux sections opérationnelles, est-ce que ça vraiment, ça nuit? Est-ce que c'est parce que le bureau peut. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui ne se font pas faire avec le lieutenant-gouverneur à tout moment, mais est-ce que le fait que ça ne vient pas directement de cette personne, comme on a parlé de service à faire directement du chef d'État, comme c'est quoi la dynamique avec le travail puis le service, comme le point A au point B? Alors peut-être que c'est la perspective que je peux donner, mais ça. Ça, c'est comme une chose difficile à s'imaginer parce que c'est vraiment, c'est toujours un petit bureau. Les lieutenants-gouverneurs, c'est souvent pas beaucoup de personnes qui travaillent avec le lieutenant-gouverneur. Alors, comment est-ce que ce bureau unique, on retrouve pas cet environnement, cette responsabilité, qu'est-ce que Nathalie a dit avec le chef d'État, comme c'est vraiment un rôle qu'on n'a aucun autre exemple pour dire, OK, c'est ça un exemple de cette situation, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Alors, c'était certainement une question compliquée.
Merci beaucoup, puis on passera à Nathalie prochain.
Oui, donc un exemple que j'aime donner pour démontrer que la qualité des services ne serait pas la même dans les deux langues, c'est dans l'exemple des écoles secondaires. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, à ma graduation de l'école secondaire, la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick y était. Elle donnait des certificats. Puis à l'époque, la lieutenant-gouverneure était bilingue. Tu sais, elle nous a félicité, elle nous a parlé en français. Mais mettons, si nous regardons l'exemple de l'honorable Brenda Murphy, si elle se présentait à une graduation d'école secondaire francophone, elle serait incapable de parler avec les jeunes en français. Mais si on lui met dans une situation où les écoliers parlent anglais, elle serait complètement capable de leur parler en anglais. Bien, dans la situation avec les étudiants francophones, il y aura un interprète. Mais la qualité des services d'un interprète, on ne peut pas toujours garantir qu'ils sont en train de bien traduire ce qu'elle est en train de partager. Puis c'est un exemple concret que, tu sais, même s'il y a des interprètes qui l'accompagnent lors de l'exercice de ses fonctions, même que son bureau soit bilingue, c'est pas la même qualité des services pour la communauté francophone puis la communauté anglophone de la province. Donc, ça mine vraiment le concept de l'égalité réelle qui est confirmé par la charte. Puis, en tant que pays, en tant que province, on doit protéger puis promouvoir la viabilité des deux communautés linguistiques. Puis, je pense que c'est impossible de le faire si on ne reconnaît pas que les francophones ou Nouveau-Brunswick n'avaient pas la même qualité des services que les communautés linguistiques anglophones. Je reconnais que la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, Louise Imbeault, est francophone, puis c'est bien, mais je pense que c'est important de confirmer qu'à l'avenir, tous les lieutenants-gouverneurs du Nouveau-Brunswick soient bilingues pour que la qualité des services soit offerte pour les deux communautés linguistiques.
Merci beaucoup. Puis là, à Stéphanie.
100% encore, je fais écho à ce que Nathalie elle a dit, mais tu sais, je pense que c'est ça un peu le problème, c'est que oui, on peut imaginer une situation, c'est que le ou la lieutenant-gouverneur est anglophone et il y a un interprète, là. Il y a quelqu'un du bureau qui peut faire la tâche, l'interprétation pour le ou la lieutenant-gouverneur. Dans une situation aussi que ça sera en anglais, le ou la lieutenant-gouverneur le ferait elle-même ou lui-même. Puis ça, je pense que ça vient justement encore créer une certaine asymétrie visible qu'on peut facilement ressentir entre les communautés anglophones et francophones. Puis, selon moi, la reconnaissance officielle des deux langues au Canada, ça ne se limite pas à toujours faire des accommodements pour une communauté. Ça ne se limite pas à juste faire toujours de la traduction ou ajouter des services qui seraient autrement offerts d'une certaine manière en anglais. Pour moi, vraiment, si on cherche une égalité au niveau de la qualité puis de la reconnaissance de ces deux langues-là, ça vient vraiment à la capacité de s'adresser directement et avec le ou la gouverneur, mais aussi pour cette personne-là de s'adresser directement et sincèrement avec les citoyens dans leur langue, que ce soit l'anglais ou le français. Fait que, tu sais, c'est ça comme le bilinguisme. Le bilinguisme, c'est une manière tangible justement d'incarner l'égalité de ces deux langues avec le ou la lieutenant-gouverneur. Donc, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut remplacer cette tâche-là de le faire en français, mais c'est vraiment pas la même chose.
Je suis tout à fait en accord. Je crois que c'est très important de souligner que oui, il y a des accommodements possibles à faire, mais c'est aussi que ces accommodements ne sont pas la même chose d'avoir la service réelle. ou qui vient réellement, genre, c'est entièrement possible d'avoir des interprètes, d'avoir du monde qui fait de la traduction, mais on voit même dans les situations comme à la cour, lorsque du monde demande pour des interprètes ou à la Chambre des communes, il y a l'interprétation simultanée qui est très, très bien faite, mais si vous écoutez à l'interprétation, puis vous écoutez à ce qui est dit réellement dans la salle, parfois ils ne sont pas exactement la même. Puis ça enlève aussi un peu la connexion avec la communauté francophone. Mais il y a l'autre bord de est-ce que c'est vraiment une obligation? Est-ce que l'accommodement est suffisant? Et est-ce qu'il y a une obligation de fournir les services directement ou est-ce que c'est suffisant que le bureau puisse fournir ces services? Puis moi, j'ai hâte à entendre ce que la Cour a à dire sur ça.
Ceci nous mène à la conclusion de l'émission. Nous remercions Gabrielle Poliquin, Nathalie Comfort, Gabrielle Muzachka et Stéphanie Moreau d'être venues nous parler pour cette émission. Nous remercions également le conseil exécutif de la revue qui nous a appuyés lors de la création de cette émission. Finalement, merci beaucoup à vous.